chapitre 23.
Nous sommes en train de faire une série d'études sur les cinq sacrifices de l'Ancien Testament. Il y en avait cinq parce qu'il fallait cinq pour regarder de tous les angles différents la mort du vrai agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait sept fêtes religieuses et ces fêtes aussi sont symboliques, préfigurantes de l'œuvre du salut. Et en fait, vous allez voir de toute l'histoire du plan de Dieu. Et donc, nous allons lire au sujet de la fête de la Pentecôte. C'est là où nous en sommes arrivés. Et donc, c'est au verset 15 que nous trouvons le texte de ce matin. 23:15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, donc ça c'est une allusion à la fête des prémices, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours, donc 7 semaines plus un jour, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour les dédier. 2 pains. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Chose étonnante. Ce sont les prémices pour l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande et la libation correspondantes comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. 2 pains, 2 agneaux en sacrifice de communion, ou on l'appelle parfois le sacrifice de paix. Le sacrificateur fera devant l'Éternel le geste de les dédier. En plus du pain des prémices et qu'on dédie, et en plus des 2 agneaux, ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. L'hébreu est un peu difficile là. D'autres versions, peut-être vous avez quelque chose qui correspond un peu plus à l'idée que les 2 pains seront dédiés et donc agités au-dessus des 2 agneaux de sacrifice de paix. Probablement c'est ça. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson, et donc ça finit comme ça, c'est une prescription qui est attachée aux règles concernant la fête. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous avons dit que les 7 fêtes religieuses des Juifs étaient donc des symboles du salut qui devait venir par Jésus-Christ, les amis. C'est absolument incroyable et merveilleux que Dieu ait annoncé avec tant de détails exactement ce que le Christ allait faire. Et en fait, ces 7 fêtes religieuses annoncent, pour les comprendre, il faut savoir qu'ils sont repartis en 3 moments de l'année. Si vous montez 3 fois à Jérusalem, vous pouvez célébrer les 7 fêtes, parce que certains sont collés les unes aux autres. Donc, la première fois que vous montez à Jérusalem, c'est au début du printemps. Et là, vous montez et vous célébrez 3 fêtes que nous avons déjà discutées ensemble. Il s'agit de la fête de la Pâque, l'agneau immolé, la fête des prémices. Et donc la fête de... Maintenant, ma vieille mémoire m'échappe. La fête des pains sans levain et la fête des prémices. Donc ces trois sont collés ensemble pendant 8 jours, vous les célébrez. Alors, il faut bien comprendre que ces fêtes du début du printemps préfigurent quoi? L'œuvre de Christ en l'année 30 de notre ère, donc sa mort, fête de Pâques, un agneau immolé, donc son ensevelissement, il est mort au péché, nous dit le Nouveau Testament, il est dans le tombeau et il meurt au péché pour que le péché soit extirpé de nos vies. Et il ressuscite les prémices, la gerbe est agitée devant l'Éternel, la moisson n'est pas faite, la moisson de l'orge, mais il y a juste les prémices qui se lèvent avant que tous les autres. Et Christ se lève de la mort avant tous les autres. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça, je ne peux pas revenir là-dessus. Il nous a fallu 3 semaines pour en parler. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le premier voyage célèbre trois fêtes et ces trois fêtes préfigure ce qui s'est passé déjà et c'est fini. C'est l'œuvre de notre Seigneur dans sa mort et sa résurrection. La deuxième fois que vous allez monter à Jérusalem, si vous êtes juif, c'est à la fin du printemps. Et donc, à la fin du printemps, vous allez monter, célébrer une seule fête, un seul jour. Et cette fête que nous allons étudier aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, nous parle non pas de ce qui s'est passé au moment de la mort de notre Seigneur, mais ce qui se passe. Parce que ces fêtes nous donnent le calendrier de toute l'histoire depuis Jésus jusqu'à la fin des temps. Donc le milieu, la fête au milieu, la deuxième fois que vous montez à Jérusalem, c'est une fête qui parle de la moisson. Et nous allons voir la moisson des hommes et des femmes de toute nation dans l'Église et dans le royaume de Dieu. Ok, vous rentrez à la maison et vous avez... Les 2 premiers voyages sont assez proches, n'est-ce pas? 7 semaines, nous avons lu dans le texte, les rejoint. Les deux sont au printemps. Mais maintenant, il faut attendre les mois parce que vous n'allez revenir qu'en septembre. Pour le dernier groupe, vous allez célébrer pendant le... Troisième voyage, vous allez venir pour trois fêtes. Ces trois fêtes préfigurent non pas l'œuvre de Christ déjà accomplie, non pas ce qui se passe dans l'histoire chrétienne, mais ces trois fêtes préfigurent la fin de l'histoire, le dernier jour, le jugement et tout ce qui va se passer là. C'est assez incroyable que Dieu, par ces 7 fêtes, montre au peuple juif tout l'histoire qui va se dérouler dans les temps à partir du Messie. Si les gens disent, est-ce qu'il y a des preuves de la foi chrétienne? Si vous avez suivi la série, c'est assez hallucinant. Nous avons donc dit que... Dans ce premier voyage, et je finis ainsi l'introduction, restez avec moi. Dans ce premier voyage, vous avez célébré la Pâque. Et nous nous rappelons que là, nous avons la rédemption d'Israël, d'Égypte. Par quelle manière? Par un agneau immolé pour sauver Israël de l'ange de la mort qui vient frapper Égypte. Et donc, la délivrance de la mort et de l'Égypte se fait parce que l'agneau et son sang est mis sur les linteaux de la porte, et les Israélites sont épargnés et ensuite délivrés. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés. Le jugement de Dieu tombe sur un agneau et pas sur nous, et nous sommes aussi délivrés. Et le jour après la fête de Pâques commence la fête des pains sans levain, et comme nous avons dit, Christ meurt au péché. Et on doit enlever tout le levain de la maison, levain qui représente le péché, la corruption. Et nous avons parlé de comment Paul dit que nous sommes maintenant une pâte sans levain. Okay? Et après cela, vous avez donc cette fête de prémices où comme je vous ai montré, cette gerbe est agitée devant l'Éternel, une seule gerbe, alors que tout le reste est dans le champ, et une seule gerbe se lève. Christ se lève de la mort avant nous tous. Et il faut maintenant rentrer. Nous devons rentrer à la maison parce que c'est le moment le plus occupé de l'année. En mai, on revient pour la fête qu'on va discuter aujourd'hui, la fête de la Pentecôte. Donc cette semaine, nous avons lu dans le texte qu'il faut compter. Il faut compter depuis le sabbat, le dernier sabbat de la fête de, donc des prémices, il faut compter 7 sabbats et ajouter un jour. Alors vous avez bien calculé que ça fait 50 jours. 7 fois 7 plus 1, 49 plus 1, 50. Le mot Pentecôte, Pente, en grec signifie 50. Et nous les chrétiens, on pense, quand on pense à cette fête, on appelle ça la Pentecôte. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas appelé la Pentecôte, c'était appelé la fête de la moisson ou la fête des semaines, parce qu'il fallait compter des semaines. La fête des moissons, parce que vous allez voir que cette fête est très liée à toutes les moissons qui viennent d'achever. Bien. Donc, nous allons maintenant, si vous avez la feuille devant vous avec le plan du message, nous allons parler de la législation de l'Ancien Testament concernant la fête, et ensuite nous allons parler de l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Il y a des fiches sur des... Bien, nous sommes juifs pendant la période de l'Ancien Testament. Nous sommes rentrés à la maison après le premier voyage pour célébrer ces 3 fêtes. C'était au moment de la moisson de l'orge que nous avons fait cela. Nous rentrons à la maison et comme j'ai dit, maintenant nous avons cette semaine d'activité vraiment frénétique. Parce que dès que la moisson de l'orge est faite, la moisson des fruits sont prêts. Et dès que la moisson des fruits sont faites, il faut faire rentrer les olives. Et dès que les olives sont rentrées, il y a les raisins. Et dès que les raisins sont rentrés, c'est le moment de récolter le blé. Et donc vous pouvez vous mettre dans la place des juifs dans une société agrarienne et savoir que c'est vraiment un moment très très pressé. Mais à la fin de ces 7 semaines d'activité intense, toute la moisson, mais je veux dire toute la moisson, est dans les greniers et on monte à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte et c'est un moment de grande réjouissance. Beaucoup de Juifs anticipaient particulièrement parmi les 7 fêtes, la fête de Pentecôte et nous savons, en lisant l'histoire, que quand les Juifs, beaucoup plus tard que cet écrit de Lévitique, quand les Juifs ont été dispersés un peu partout dans le monde, même s'ils ne revenaient pas à Jérusalem, jusqu'à Jérusalem, pour la fête de Pâques, par exemple, ils faisaient l'effort pour revenir pour la Pentecôte. C'était particulièrement important, et nous voyons dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul lui-même fait un effort spécial dans le livre des Actes pour essayer de se rendre à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Donc, il faut comprendre que c'est un dimanche, parce que vous avez fait le calcul, on compte depuis le sabbat de la dernière fête, 7 sabbats, le sabbat juif c'est un samedi, 7 samedis, et on ajoute un jour qui fait dimanche. Mais selon le texte que nous avons lu, ce dimanche va être un sabbat, parce qu'un sabbat, ce n'est pas un jour, c'est ce qu'on fait pendant un jour, ok? Et donc, ça ne va pas être le sabbat hebdomadaire, qui est samedi, ça va être un sabbat spécial de dimanche. Très important à comprendre. Hey, vous vous rappelez que pendant la fête des prémices, si vous avez été ici, c'était seulement une gerbe d'orge qui a été agitée devant l'Éternel, hein, une plante. Mais maintenant, ça va pas être une gerbe, ça va être, enfin, plutôt, je voulais dire que tout le reste de la moisson est dans le champ, alors que maintenant, on va apporter des pains à l'Éternel lorsque toute la moisson est dans les greniers. Cela est significatif. Je vais vous expliquer le symbole de tout cela. OK. Qu'est-ce que les sacrificateurs doivent faire? Les sacrificateurs doivent offrir deux pains faits avec levain et avec la fleur de farine. Donc, pas une plante offerte à l'Éternel, mais des pains cuits avec levain. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Mais les Juifs, ou nous, si nous étions juifs à cette époque, nous sommes en train de remercier Dieu pour notre pain ordinaire. Donc, on offre deux pains ordinaires à l'Éternel. Donc, ce jour était donc un jour de présentation de pain. Et nous voyons ça dans le verset 17, où vous apporterez de vos demeures deux pains pour les dédier. Ils seront faits avec 2/10 de fleur de farine. C'est la première chose que le texte nous dit que nous devons apporter à l'Éternel. Même avant de parler de sacrifices, il y en a beaucoup, des agneaux, des béliers, des taureaux. Mais d'abord, on dit, c'est un jour pour présenter des pains. Très important. Ensuite, les sacrificateurs qui nous représentent, si nous sommes juifs à l'époque, doivent offrir plusieurs animaux. Ils doivent offrir 7 agneaux en tant qu'holocauste, des boucs, un taureau et 2 agneaux en tant que sacrifice de paix, avec des libations et tout ce qui va avec. Donc, il faut savoir que nous sommes dans une fête particulièrement abondante en sacrifices, beaucoup de sacrifices. Parce que dans les autres fêtes, il y avait beaucoup moins d'animaux sacrifiés. Par exemple, il fallait offrir un bouc en tant que sacrifice d'expiation. Regardez le verset 19. On vous offrira un bouc en sacrifice pour le péché. Donc ce jour-là, nous confessons que nous ne sommes pas dignes de toute cette grande moisson, de tout ce que Dieu nous a donné, qui va nous soutenir pour toute l'année, et que nous vivons devant ta face sur la base d'un sacrifice, d'un substitut mis à mort pour nous. C'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que nous vivons. Ensuite, le peuple devait offrir 2 agneaux en tant que sacrifice de paix. Et vous vous rappelez, nous avons étudié le sacrifice de paix. C'est un sacrifice qui signifie que nous célébrons le fait que nous sommes en paix, nous sommes en règle avec Dieu par Jésus-Christ. Mais ce qui est important, c'est que le peuple vient, nous venons à la Pentecôte, si nous sommes juifs, et nous célébrons, nous louons Dieu pour le fait que nous sommes en paix avec lui. Mais, intéressante, c'est la seule fois dans toutes les rites juifs où un sacrifice de paix va être offert pour le peuple entier. Tu pouvais offrir un sacrifice de paix toi-même individuellement, mais c'est la seule fois où un sacrifice de paix est offert pour dire tout le peuple est en paix avec toi. Et attention, c'est pas un agneau qui est offert en tant que sacrifice de paix, c'est deux. Et cela va nous expliquer quelque chose vraiment important dans cette fête. Le peuple devait observer ce jour comme un jour de sabbat. Nous sommes juifs dans l'Ancien Testament, donc c'est un jour tranquille. Partout dans le pays, pas simplement à Jérusalem pour ceux qui ont pu faire le voyage, mais même ailleurs, les femmes et les enfants qui ont été laissés derrière, eux aussi, dans leur maison, ils doivent garder un jour de repos. On est tranquille ce jour de la Pentecôte. OK. Maintenant, ça c'est le rite, et nous allons maintenant considérer l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Dans les trois premières fêtes, nous avons vu symboliser la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Il faut simplement que nous voyons le déroulement des choses. Le 14 du mois de Nisan, au début du printemps, en l'année 30. Au moment où les Juifs sont en train de sacrifier l'agneau de la Pâque et célébrer le jour de la Pâque, Jésus de Nazareth, le vrai agneau de Dieu, est suspendu sur une croix pour accomplir la fête de la Pâque. Le lendemain, les Juifs commencent à célébrer la fête des pains sans levain. Et au moment où tout le monde est en train d'enlever le levain de leur maison, symbole du mal, le Christ est dans le tombeau. Et Romains 6 dit, s'il est mort, c'est qu'il est mort au péché. Et on se le dit pour que nous soyons donc enlevés du domaine et du règne du péché. Le dimanche 16 Nisan, l'année 30, au moment où le sacrificateur présente cette gerbe, qui est la seule de l'orge qui a été arrachée du champ, le Christ, lui, est arraché de la mort, et alors que tous les cimetières sont encore remplis aujourd'hui, il y a un seul trou dans le champ où la gerbe était, et un trou dans les cimetières, la place du Christ est vide. Mais en l'année 30, qu'est-ce qui se passe après le 16 Nisan? Le 16 Nisan, Jésus ressuscite des morts. Et il passe combien de temps avec ses disciples? Vous vous rappelez? Il passe 40 jours. Pourquoi 40 jours? Dans la Bible, 40 est toujours le temps de l'épreuve. N'est-ce pas? Israël passe 40 années dans le désert, éprouvé par Dieu. Jésus passe 40 jours de tentation dans le désert pour être éprouvé, prouver qu'il est pur. Et maintenant, Jésus prouve qu'il est ressuscité. Parce que pendant 40 jours, il vient rencontrer les disciples. Et il prouve que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vision. Il est vraiment ressuscité, il mange avec nous, il parle avec nous, on le touche. Donc, il les quitte après 40 jours. Mais il ne les quitte pas sans les laisser avec un commandement et une promesse. Si vous avez lu dans les évangiles et le livre des actes, vous savez très bien le commandement et la promesse. Le commandement, c'est ne bougez pas, restez à Jérusalem. La promesse, c'est que je vais envoyer en peu de jours le Saint-Esprit. D'accord? Comme Actes chapitre 1 et verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, si nous avons bien compté, le 16 Nisan, Jésus ressuscite des morts, 40 jours, il passe avec ses disciples. Maintenant, nous sommes 40 jours après les trois premières fêtes. Et la prochaine fête, c'est dans combien de jours? 50 jours, rappelez-vous? 50, Pentecôte. Donc, il nous reste 10 jours. Au moment où Jésus nous quitte en disant, en peu de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors, Jérusalem commence à se remplir en l'année 30 de Juifs venant de partout dans la dispersion, aussi loin qu'Italie, le sud de la France, et les côtes de l'Afrique du Nord. Les Juifs sont en train d'affluer à Jérusalem, et aussi des gens qui ne sont pas Juifs, parce qu'il y a des gens convertis à la foi biblique à travers ces Juifs. Et ils sont tous en train de venir. Les disciples devaient sans doute se demander quand est-ce que l'Esprit va nous être donné? Il a dit peu de jours, mais les autres fois, c'était sa mort, sa résurrection, c'est tombé pile sur les fêtes juives. Est-ce que ça va être pendant la fête de la Pentecôte que nous allons recevoir l'Esprit? Je me demande s'ils n'ont pas posé cette question, peut-être pas. Qu'arrive-t-il le jour de la fête de la Pentecôte? En Actes chapitre 2, verset 1, nous lisons ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quel lieu? Jérusalem. Jérusalem qui se remplit de gens pour célébrer la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive en ce moment? Pierre se lève, parce que les gens sont venus, ils ont entendu ce grand bruit, n'est-ce pas? Les gens se sont accourus vers la maison où étaient les apôtres, et voyant la foule qui s'étonne et certains se moquent, Pierre se lève et il commence à prêcher. Comment prêche-t-il? Il prêche à partir des Écritures. Il explique Joël, il explique certains passages dans les psaumes. À partir des Écritures, il annonce quoi? L'Esprit? Non, il annonce Jésus. Il annonce la mort, la résurrection de Jésus, et il finit en disant que cette effusion de l'Esprit, c'est la preuve que Christ a été fait Seigneur. Cela prouve parce que c'est Jésus qui a reçu la plénitude de l'Esprit et qui nous l'a déversé. Donc, Dieu nous montre ce jour de la Pentecôte quoi? En fait, rappelez-vous qu'au moment où Pierre prêche, 3000 personnes se convertissent et rentrent dans l'église chrétienne. Ils sont moissonnés. Nous sommes en train de fêter la fête de la moisson. La fête de Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et maintenant, c'est réalisé parce que la moisson commence avec éclat. Mais comment est-ce que Dieu moissonne? Il nous montre ce jour-là pour qu'on n'ait jamais une question là-dessus. Ce n'est pas par des trucs, ce n'est pas par des astuces pour gagner des gens à Jésus, c'est par la prédication de Jésus-Christ en tant que Seigneur à partir des Écritures, prédication roi par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu moissonne depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Il moissonne son peuple dans sa bergerie, dans son grenier. Que ce soit une prédication comme Pierre ou que ce soit une conversation personnelle, nous parlons aux gens à partir des Écritures, expliquant ce que les Écritures disent au sujet du Christ et de son œuvre sur la croix et sa résurrection. Donc, juste pour finir, quelques leçons. La Pentecôte donc, nous annonce qu'une moisson de Juifs serait suivie par une moisson des gentils, des non-Juifs, dans l'histoire du monde. Lisez avec moi dans Lévitique 23, le verset 22. Et nous tirons vers la fin, mais c'est important. Nous avons cette prescription qui est collée aux règles sur la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte, cette prescription qui dit « Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Qui est l'immigrant? L'étranger. C'est le non-juif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire tout simplement que dans la manière dont les Juifs devaient vivre, il y a une moisson juive, on moissonne les olives et le fruit et tout le reste, mais on laisse une partie et vient une moisson grandement non-juive. Parce que les immigrants viennent avec les plus pauvres des Juifs et ils viennent aussi moissonner. Et c'est ce que nous voyons dans l'Écriture, le jour de la Pentecôte, nous avons une conversion massive des Juifs Et l'Église reste juive pendant quelques années. Quelques prosélytes étaient là et se sont convertis. Mais après, il y a une grande moisson des non-juifs. Paul est envoyé partout dans le monde et la moisson commence à rentrer parmi les nations. C'est pour cela que nous avons deux pains. Et maintenant, nous allons enfin comprendre verset 17. Verset 17 nous dit, vous vous apporterez de vos demeures deux pains pour les dédier. Et dans ce verset, je crois que c'est le verset 20, on devait offrir deux agneaux en tant que sacrifice de paix et agiter les pains au-dessus de ces deux agneaux sacrifiés. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Dans la Bible, un pain est utilisé souvent pour représenter un peuple, un groupe de personnes. Ça va assez bien, parce que c'est quoi un pain? Un pain, c'est beaucoup de grains, soit individuels, qui sont devenus collés, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous avez, par exemple, dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a 12 pains qui, selon le texte de l'Ancien Testament, représentent les 12 tribus d'Israël. Donc un pain représente un groupe de personnes. D'accord? Ensuite, vous avez Paul lui-même qui dit en 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ça va? Vous voyez? Pourquoi donc deux pains? Parce que Dieu nous dit d'avance que les deux peuples qui existent dans le monde, selon la vue de Dieu, le peuple de Dieu et le peuple qui n'est pas de Dieu, Dieu va moissonner ces deux peuples et il va les recevoir. Quand on vient avec ces deux pains, cette symbolique des juifs et des non-juifs moissonner ensemble et donner à Dieu. Deux peuples en paix avec Dieu parce qu'on les agite, ces deux pains, au-dessus des deux agneaux qui sont les sacrifices de paix. Donc, nous lisons dans le sermon de Pierre qui dit ceci à la fin, c'est intéressant. Écoutons cette dernière phrase du sermon du jour de la moisson, du jour de la fête de la Pentecôte. Il dit, repentez-vous, car la promesse est pour vous. Il parle aux Juifs, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Quand nous arrivons, donc on parle de deux sortes de, pour vous et pour ceux qui sont au loin. Quand nous arrivons un peu plus loin dans le Nouveau Testament, Paul, en Éphésiens chapitre 2, utilise le même langage. Ceux qui sont loin sont qui pour Paul? On va lire. Il dit ceci à la fin du chapitre 2. Il dit que, il est venu vous annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il est en train de parler aux non-juifs dans l'église d'Éphèse et il dit que, autrefois, vous païens, non-juifs dans la chair, vous étiez sans Christ, privé des droits de la cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse de Dieu. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches. C'est lui, Jésus, notre paix, le sacrifice de paix, pardon, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Donc, dans le Nouveau Testament, on nous parle de deux peuples qui sont sauvés par Christ et dont Dieu va en faire un. Et c'est assez remarquable que déjà dans la fête de la Pentecôte, dans le livre de Lévitique, nous avons deux pains, deux peuples que Dieu va faire venir à lui, ceux qui sont au loin et ceux qui sont près. La dernière chose que je voudrais vous dire en tant que qui est important pour la fête de la Pentecôte, c'est que il n'y a rien de plus que la fête de la Pentecôte en année 30 qui a convaincu les chrétiens que Dieu avait changé le jour du sabbat de samedi à dimanche. Je vous explique pourquoi. Le Christ est ressuscité quel jour? Un dimanche. Il apparaît à ses disciples et il s'en va. Il n'apparaît pas à eux le lendemain, le lundi, ni le mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi. Il est absent. La prochaine fois qu'il revient, c'est encore le dimanche. Le Fils de Dieu rencontre son peuple le jour de sa résurrection, le dimanche, et pas encore jusqu'au prochain dimanche. Le Seigneur rencontre son peuple. Et puis, le jour où l'Esprit vient, le jour où l'Église chrétienne commence, c'est la Pentecôte. Et ce jour est aussi un dimanche. Trois fois, Dieu sanctifie le dimanche comme le jour spécial où le peuple de Dieu est visité par son Seigneur, par son esprit. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens n'ont jamais eu de débat au sujet de dimanche. Les chrétiens se sont rencontrés toujours le dimanche devant la face de Dieu et du Christ ressuscité. Il n'y a plus de rite pour nous à observer au jour de la fête de la Pentecôte. Mais nous sommes dans la réalisation et nous comprenons maintenant que nous avons été moissonnés et que nous avons reçu le don de l'Esprit et que nous sommes dans ce temps du calendrier de Dieu où les premières choses sont achevées, l'accomplissement du salut, c'est fini. Les dernières choses, on les attend toujours, mais nous sommes dans le milieu où Dieu est en train de moissonner. Et c'est un appel pour nous de participer à cette moisson des juifs et des non-juifs pour venir dans le salut de Dieu. Que Dieu nous aide, même dans cette petite église, à moissonner et à voir la main de Dieu achever son plan. Rien va arrêter ce plan. Ce plan est en train de s'accomplir. Et nous disons gloire à Dieu pour son plan. Gloire à Dieu pour la manière dont il révèle et prophétise et prédit et nous montre avec tant de certitude qu'il est le Dieu de l'histoire et ce qu'il a dit, il est en train de faire. Nous allons chanter. Veuillez trouver le numéro 170 dans la feuille 170, un chant sur le Saint-Esprit.